France Culture.
Bonjour le Book Club.
Bonjour le Book Club.
Bonjour, bonjour le Book Club.
Est-ce qui, est-ce que je peux me laisser traverser par le lieu? Le niaquer un peu aussi. Est-ce que lieu? Est-ce que si je me trouve dans ce lieu, est-ce que c'est pas un peu moi qui fais le lieu? Est-ce que je ne suis pas lieu en fait déjà? À moi toute seule, un lieu à part entière.
Bonjour les clubbers.
Nous sommes des lieux.
Bonjour à toute l'équipe du Book Club.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Il ne suffit pas d'une phrase prononcée d'un bloc au nom de la République en 1999 dans un bureau aux baies vitrées situé au sixième étage de la nouvelle préfecture pour que la narratrice du nouveau roman de Merete Ostis-Trupp se sente française. Bien des années après, demeurent les questions. Suis-je la même en parlant une autre langue? Qu'est-ce que cela me fait d'avoir quitté mon pays? Qu'est-ce que cela me fait de rêver en danois ou en français? La romancière publie son roman et elle est notre invitée. Vers 15h50, on reste au-delà des frontières grâce à la rédaction internationale de Radio France. On se rend aujourd'hui au Royaume-Uni où notre correspondante rencontre des inquiétudes du milieu de l'édition quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle. On y parle d'un braquage aux droits d'auteur, elle nous explique. Et en fin d'émission, on joue avec vous au grand jeu des pages musicales, à trouver de la musique dans les livres. Nous voilà ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Et j'accueille aussi chaleureusement les élèves de la classe média du collège La Vaucouleur de Mantes-la-Ville qui ont travaillé toute cette année sur toutes ces questions de migration et qui font une petite immersion dans le Book Club aujourd'hui. Elles sont assises avec leurs deux profs, Youssef et Virginie, de l'autre côté de la vitre. Et tout ça, on le fait dans le cadre de cette semaine des médias, de la presse et des médias à l'école. Je vous dis bonjour, Merete Ostis-Trupp.
Merci, Marie.
Soyez la bienvenue. Votre livre Haute a paru aux éditions du Rouergue dans la collection La Brune, soyez la bienvenue dans le Book Club. Ici, tout commence toujours par un portrait de nos invités. En tant que lecteur et en tant que lectrice, il se trouve que votre narratrice, Ella, dont on parlera tout à l'heure, fait souvent référence à ses lectures. C'est une femme qui a été pétrie par les livres, qui trouve comme ça des échos aux questions et aux remous qui la travaillent dans les livres qu'elle ouvre. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous êtes une femme aussi travaillée par les livres?
Ah oui, ça c'est sûr. Les livres ont beaucoup compté dans ma vie. Même si et peut-être d'autant plus qu'il y en avait peu hein, dans le village où j'ai grandi, il n'y avait pas de bibliothèque dans les maisons, mais bien souvent il y avait dans le grenier un carton ou deux remplis de livres de toutes sortes, des romans populaires. Et pour le français, il y avait, ça je me souviens, un rocambole parce que le nom était étrange.
Quand vous dites qu'il n'y avait pas de bibliothèque dans les maisons, c'est oui. Parce que c'est quelque chose qui était commun à toutes les
c'était
maisons
commun.
Qui vous
entouraient. Chez moi, c'était comme ça, j'étais comme ça, dans ma famille, chez des voisins aussi. Il n'y avait pas de... Et je crois qu'une bibliothèque municipale est arrivée dans ces années, là aussi un moment, à la campagne.
Dans quelles années? Oui.
Bon, je sais pas, des années 70, ouais. C'était un moment aussi où il y avait les écoles des villages qui étaient réunies dans des écoles centrales et il y avait une espèce de centralisation à la campagne.
Et est-ce que ça a joué pour vous, les enfants, dans ce cadre-là? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait plus de livres dans votre quotidien à ce moment-là?
Oui, là, il y avait plus de livres, mais sinon, bon, il y avait peu de livres, ça circulait bien entre nous. Je me rappelle quand on était ados, on lisait des séries aussi, et il y avait des séries pour filles et des séries pour garçons, mais on lisait tout, parce qu'on avait très peu.
Quand vous dites qu'au grenier, il y avait un carton dans votre grenier aussi, il y avait un carton?
Oui, il y avait un carton.
Et il y avait quoi dans ce carton de livres?
Il y avait justement des romans populaires, mais je me souviens absolument pas de ces lectures aujourd'hui. Ça a dû être des titres complètement romanesques comme Baiser volé ou je sais pas quoi. Mais je me rappelle que j'avais lu Fifi Brindancier hein, dans ce grenier. C'était l'un de mes premières lectures qui n'était pas scolaire parce que ma mère était d'accord pour tout ce qui était en rapport avec l'école, mais elle était plus méfiante pour des lectures plus romanesques. Et je me rappelle que j'avais lu Fifi Brindancier là et que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'en parle aussi dans le roman, je crois, parce que
Qu'est-ce qui vous avait marqué dans ce roman-là?
Ça m'avait marqué parce que... il faudrait peut-être que je dise que Fifi Brindancier en danois, c'est Pippi Longstrump ou Longstrumpe, et ça veut dire bas long. Et c'était pas des bas bleus ni des bas rouges. Des bas rouges, c'était des féministes scandinaves d'une génération qui m'avait précédée un petit peu. Et elle, c'était bas long dépareillé. Elle avait une robe rapiécée, d'énormes. Godillot noir et des tresses couleur carotte. Et puis, c'était une fille extraordinaire parce qu'elle avait peur de rien et elle était drôle et elle était forte. Elle savait soulever et porter à bras tout flic qui venait lui faire, qui voulait lui faire la loi. Elle avait voyagé aussi avec son père qui ensuite avait disparu dans les mers du Sud. Il était marin et elle savait par expérience, c'est juste un exemple qui m'est resté, elle savait par expérience qu'au Congo belge, personne ne disait la vérité, tout le monde mentait à longueur de journée. Mais ce qui m'avait surtout plu chez elle, je crois, c'est qu'elle était tingfine, elle était chercheuse de choses.
Tingfine, c'est le mot en danois?
Oui, c'est un mot danois.
Chercheuse de choses.
Je ne me rappelle pas si je l'ai mis dans le roman, mais je crois que oui. Chercheuse de choses, c'est-à-dire les choses qu'elle trouvait, ça pouvait être un clou rouillé, un bobine de fil à coudre ou un escargot. Mais on avait l'impression qu'avec elle, on avait le droit de découvrir le monde et même de l'inventer. Que c'était, elle nous ressemblait pas, mais
c'était la question que j'allais vous poser. Vous aviez l'impression que c'était comme un petit personnage, un miroir de l'enfant que vous étiez,
nous,
ou pas
non,
du tout.
Elle nous ressemblait pas, mais on se disait qu'elle existait. C'était un exemple et qu'on pouvait peut-être aussi sortir de nous-mêmes et devenir une autre fille.
Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce premier émoi de lecture, Merete Stierstrup, qui serait resté dans votre rapport à la lecture, c'est-à-dire la possibilité d'inventer d'autres vies, trouver dans des livres d'autres voies possibles pour s'inventer soi-même? Ça fait partie des choses que vous cherchez dans la lecture?
Ouais, je crois que c'est quelque chose de très fort qui m'a marqué, le fait qu'il y a d'autres vies possibles, hein, d'autres existences possibles. J'ai commencé à lire la littérature française aussi très tôt.
Vous aviez quel âge? Est-ce qu'on l'a dit que vous avez grandi au Danemark?
Non, ouais, quand j'ai commencé à lire vers 11-12 ans, hein, je lisais tout. On lisait tout parce qu'on lisait ce qui était disponible. Mais j'ai commencé à lire, et là, il y avait une bibliothèque municipale à 15-16 ans. Et là, j'avais lu Sartre, les Chemins de la Liberté, je me rappelle. C'était le seul volume, je crois, qui était disponible de Sartre.
Mais qu'est-ce qui vous fait lire Sartre dans un village rural du Danemark à 11-12 ans?
On était curieux de tout. Et je lisais aussi des romans en anglais, en traduction, c'était toujours en traduction. Je pense que le Danemark est aussi un pays qui est ouvert, je veux dire, à des livres traduits. Hein. Il y a une longue tradition pour ça aussi, comme c'est un petit pays. Hein. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres romans, après ce choc avec Fifi Brindacier, qui ont constitué pour vous une grande ouverture dans votre vie de lectrice?
Virginia Woolf, hein, ça c'est vraiment le livre, je crois, Une chambre à soi. Ça, c'est vraiment le livre qui a compté le plus pour moi.
Vous le découvrez quand, ce texte?
Ça c'est plus tard. Je dois avoir entre 20 et 30 ans, mais quand je l'ai lu, hein, j'ai adoré.
Pourquoi vous avez adoré? Oui. Vous vouliez déjà écrire? Vous étiez déjà en train d'écrire?
Non, je pense qu'il y avait d'autres choses. Le message est très simple, hein. Il faut avoir une chambre pour écrire. Il faut avoir une chambre à soi et puis de l'argent, ouais. 500 livres le cas échéant, je crois. Mais bien au-delà de ces conditions matérielles. Et ça, c'est peut-être pas quelque chose qu'on saisit tout de suite, mais qu'on voit bien et qui vaut pas seulement pour les gens qui écrivent, mais pour tout le monde et peut-être en particulier pour les femmes. Il y avait la nécessité aussi d'avoir accès à un espace mental, une parole intérieure, un état méditatif et le fait que c'est un privilège d'avoir accès à un espace mental Et dans le temps, pour des raisons historiques et sociales, c'est quelque chose que les femmes ont peu connu. Très souvent, bien souvent, hein, les femmes ont pensé en fonction d'une opinion publique. C'était une pensée qui se confondait avec l'opinion publique. Une parole placée sous la tutelle des normes. Beaucoup de femmes qui ne pensaient pas qu'ils avaient le droit d'avoir un espace mental, je pense qu'ils étaient aussi occupées par des tâches pratiques. C'est quelque chose que j'ai... Peut-être que ça me parlait très fort parce que c'était quelque chose que j'avais observé chez ma mère. Et ma mère, c'était pas quelqu'un qui lisait. Mon père lisait. Il était membre d'un book club d'ailleurs, où un livre circulait comme ça, le même livre entre les membres.
Mais quand vous lisez Virginia Woolf à l'âge de 20-25 ans, oui. Meredith Stierstrup, oui. Vous, ça vous aide à penser la condition de votre mère ou de quelques femmes qui vous entourent ce moment-là au Danemark, ou la vôtre à vous-même en tant que jeune femme.
Les deux, je pense, parce qu'on se forme aussi un petit peu en opposition. Moi, j'avais une peur bleue de vivre une vie comme a vécu ma mère, hein. Ça c'était
vous saviez déjà.
Oui, c'était très fort, très très fort. Peut-être que j'ai grandi aussi à une période où c'était possible de faire les études et etc. Et là j'en suis vraiment j'ai beaucoup de gratitude aussi contre le fait que c'est peut-être quelque chose qu'on ne sait pas beaucoup, mais au Danemark, tout le monde peut faire des études, tout le monde a droit à avoir une bourse, quel que soit le revenu des parents. Ce qui fait que c'était vraiment une possibilité réaliste.
Est-ce que vous voulez mettre un troisième petit caillou sur votre chemin, parce que l'imaginaire de votre narratrice est aussi beaucoup comme ça formé par les contes. Il y a quelque chose d'assez onirique. Donc on met un premier petit caillou qui serait Fifi Brin d'Acier, un deuxième petit caillou qui serait une pièce à soi de Virginia Woolf. Est-ce qu'il y aurait un troisième petit caillou important sur votre chemin de lectrice?
Il y en a beaucoup, mais je crois que je voudrais quand même revenir à la littérature française, parce qu'il y a un livre qui compte aussi dans ma vie, et de façon très très bizarre. Hein.
On adore, c'est des histoires qu'on préfère.
c'est Jean Genet.
Quel livre de Jean Genet?
Je l'ai lu en traduction, et en traduction c'est Blomstertin Forelle, et ça veut dire fleur pour un traître. Et en fait, j'ai compris bien plus tard que c'était Notre-Dame des fleurs.
Ouais.
Oui. Et je l'ai trouvé.
Fleur.traître.
Oui, Fleur.traître. J'ai regardé là l'autre jour. C'est une très très bonne traduction, en fait. Donc c'est un livre que j'avais trouvé en librairie en ville, et c'est un livre soldé.
Au Danemark.
Oui, au Danemark. Et j'avais 15-16 ans. Ça, je sais parce que c'est parmi les premiers livres que j'avais achetés. Et ça coûtait vraiment pas cher, et ça faisait partie d'une collection qui était intitulée Versions non abrégées. Et sur le quatrième de couverture, il y avait des avertissements.
Tout ce qu'il faut pour vous donner envie, quoi.
Oui, il y avait des extraits d'avis critiques. Et c'était pour un journal du voleur, un des romans précédents, mais c'était marqué qu'on pouvait lire que c'était une littérature de pissotière, abjecte, et que sa place n'était pas, était plutôt dans la montre d'un musée du crime et pas dans une librairie. Mais il y avait des avis contrastés parce qu'après on pouvait lire que...
Tout ça sur la couverture.
Quatrième couverture. Que c'était un livre... Non, l'auteur, c'est un auteur qui élargissait nos concepts habituels de vérité, de beauté et d'amour. Donc, je l'ai acheté.
Tu m'étonnes. Oui. Sacré programme. Vous avez été récompensée de votre curiosité?
Non, parce que j'ai pas compris grand-chose. J'ai pas compris, en tout cas, que c'était un univers d'homosexuel. Mais j'ai compris qu'il y avait du théâtre et qu'il y avait beaucoup de... et qu'on pouvait être un homme et porter un nom féminin. Et tous les noms étaient... Des fois, c'était traduit en danois, des fois, c'était gardé en français. Notre-Dame, par exemple, même si c'était différent sur la couverture. Il y avait la Castagnette, Angela, Mimosa 1, Mimosa 2, ça, je me rappelle. la Mimosa la Grande, toute une dynastie. Il y avait la Madone des Fleurs, il y avait la Baronne, c'était la baronesse en danois, mais c'était un mélange comme ça.
En tout cas, vous avez commencé par dire que une des grandes expériences de lectrice pour vous, c'est avoir accès à d'autres vies que la vôtre, Merete Sierstrup.
Oui, c'est ça.
Clairement, avec Notre-Dame des Fleurs ou avec Journal d'un voleur de Jean
Genet.
Et
qu'on n'avait pas besoin d'être femme pour être féminin. Je crois que ça, j'avais saisi dans le livre que...
Grande idée, à 15-16 ans.
Oui, mais c'était, je pense que c'était, j'étais assez consciente de ce genre de choses, oui, à l'époque.
On va parler de votre livre à vous juste après ce morceau, interprété ici par un jeune artiste qui s'appelle Oete. J'espère que je prononce bien. C'est une reprise d'un hit sorti, lui, en 1990. C'était Aïe 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 il y a 35 ans, donc. L'album s'appelait Religion et le groupe s'appelait Niagara. Et dans cette chanson, tout brûle. Les champs, les arbres, le désir. Seules les larmes peuvent éteindre la caresse du feu.
Des arbres se pensaient plus fort que tout. Accrochés aux branches, l'air me semble encore trop doux. Dans l'herbe écrasée, à compter mes regrets, allumé de craquer. J'attends que les champs brûlent, j'attends que mes larmes viennent. Et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne. Là on s'est embrassé sans se parler. Autour de nous le monde aurait pu s'écrouler. Les yeux cernés des poussières dans les cheveux. Au long de mes jambes la caresse. C'est du feu. Pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes viennent. Et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne. Pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes viennent. Et quand la ondule, que jamais rien ne m'atteigne.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Le mot hôte, H-O-T-E, a cela de magnifique dans la langue française qu'il désigne à la fois celles et ceux qui accueillent et celles et ceux qui sont accueillis. C'est le titre du roman au programme de votre book club cet après-midi. La narratrice Ella a quitté son pays, le Danemark. Disons qu'elle est tombée amoureuse de la France et peut-être d'un Français et peut-être de la langue. Pourtant, tout cela ne va pas sans remous. Alors qu'elle traverse une profonde période de doute, tout ce qui compose son identité se voit soumis à la question, l'identité ou l'idée d'identité même. Danoise, est-ce un mot qui l'enferme ? Française, est-ce un mot qui la définit ? Et femme ? Et puis, est-ce qu'on dit le ou la cœur ? Quoi qu'il en soit, voilà un être qui veut tomber les masques et ouvrir un nouveau moment de sa vie, en somme, repousser neuve sur ses racines. Hôte au pluriel, c'est le titre de votre livre, Merete Sierstrup. Il a paru dans la collection La Brune aux éditions de Rouergue. Avant qu'on écoute l'incipit de votre roman et peut-être qu'on discute de la construction de ce roman. L'incipit, c'est vraiment la scène qui devient une sorte de scène matricielle de tout le reste, presque une scène traumatique, on va y revenir. Est-ce que vous voulez bien présenter cette femme qui est Ella ?
Ah, et là, Ella Sune Wangpo, c'est un personnage qui a grandi dans la campagne danoise et qui très tôt sait qu'elle va quitter le village. Elle a envie de faire des études et de voir le monde et de tout découvrir. Et là, Sune Wang, c'est un personnage qui me ressemble à certains moments, mais qui est aussi inventé, qui a commencé à prendre sa propre, à prendre sa propre vie à un moment, parce que je pense que il y a des traits qui sont forcés, ses peurs, sa folie, ses audaces, sa dépression aussi, parce qu'elle traverse un moment difficile. Alors que moi, je suis peut-être un personnage plus ordinaire. Ça m'a permis donc aussi de poser des questions par rapport à le changement, ce changement d'identité qu'est l'acquisition d'une autre nationalité, ce que ça peut faire comme remous, même si ça a l'air de rien.
Et ça, on y entre dès le départ avec une scène qui pourrait paraître seulement administrative, qui pourrait paraître être une formalité, une phrase simplement. Seulement quand elle est prononcée, cette phrase, ça fait quelque chose et ça reste. On écoute le début de votre roman.
Vous êtes française. Le constat tombe comme un couperet. Quelque chose a changé, je l'entends par l'inflexion descendante de la voix. La phrase a perdu le ton habituel, interrogatif. Au lieu de quoi, on entend un claquement. L'air vibre autour des trois mots. Ce n'est pas une phrase que je traverse, c'est elle qui me traverse. Elle fait date, on est en septembre 1999. Ce n'est pas l'annonce faite à Marie. C'est la République qui parle dans la voix d'une femme à mi-vie, le corps replet se déplaçant sur une chaise à roulettes entre ses piles de classeurs. Depuis son bureau aux baies vitrées, situé au sixième étage de la nouvelle préfecture, elle a une vue imprenable sur la ville. Ce n'est pas non plus une déclaration de guerre que Madame Godichet vient de me faire. En levant les yeux de mon dossier, elle l'annonce sur un ton administratif, avec tout juste un filet d'hostilité dans la voix. C'est comme si elle pouvait aussi bien ne pas penser ce qu'elle dit. Au fond, elle peut très bien penser l'inverse de ce qu'elle exprime d'office. Vous n'êtes pas française. Mais enfin, les circonstances m'obligent à reconnaître que vous êtes bel et bien française sur ce bout de papier juridique, s'entend. Vous comprenez, on peut être française de différentes manières. Par naissance ou par origine, par ascendance, par mariage, par naturalisation, par déclaration, par décret. Elle ne se risque pas à dire mon nom. Elle pourrait perdre son ascendant, ne serait-ce qu'un instant.
C'est un premier extrait de votre livre Meretos Tierstrup qui s'appelle Haute, que vient de lire Mathilde Wagman. Peut-être on peut dire que c'est la première fois que vous écrivez un roman depuis le français, d'origine en français, immédiatement. C'est la première fois.
Le chemin a été très long hein, pour arriver. Ce n'était pas le premier chapitre au début. Au début, j'ai commencé ce roman à un moment où j'avais emménagé dans une maison qui était entourée d'arbres, qui me rappelait les contrées où j'avais grandi. Et j'ai commencé à écrire des fables sur les arbres, où je les sous-traitais un peu ces arbres. Je les faisais parler à ma place. C'était des étrangers comme moi, des Pinois d'Autriche. Je les anthropomorphisais, humanisais. Je crois que ça marchait pas très bien. Donc j'ai mis... Je voulais pas parler de moi-même. Hein. Je voulais pas parler de mon parcours à moi. Je voulais pas que ça soit trop autobiographique. J'avais pas envie de le faire. Et donc j'ai mis une narratrice allemande dans un premier temps qui s'appelait Nelly. Et puis peu à peu, je me suis dit qu'il fallait quand même faire. J'ai vu qu'il fallait faire face à cette Danoise qui vivait un peu une vie clandestine dans le texte jusqu'à ce moment-là, jusqu'à très tard. Donc après, donc c'est cette Ellie qui est apparue.
Ella.
Ella, oui, Ella.
Vous avez dit Ellie, c'est un petit reste de votre ancienne narratrice.
Oui, Ellie, oui, ouais, voilà. Oui, c'est ça.
Et peut-être dire un mot de cette scène que vous mettez en incipit de votre roman et qui revient comme étant quelque chose de, je le disais, de très matriciel, de traumatique. La phrase qui a été prononcée, vous êtes française, qui pourrait être l'accession à quelque chose. En fait, elle passe son temps à se demander qu'est-ce qu'on m'a dit ce jour-là, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on a affirmé le jour où on m'a donné la nationalité. Elle, ça fait bouger beaucoup de choses en elle. Ce serait quoi? Qu'est-ce qui bouge en elle si on essaye de déplier ça un peu?
Ouais, qu'est-ce que... Enfin, tout est dit dans cette phrase-là, parce que c'est toute la question aussi, toute la difficulté de devenir française quand on est né ailleurs, au Danemark, par exemple. Pour moi, il y a aussi la phrase de Simone de Beauvoir qui résonne, « On ne naît pas femme, on le devient », parce qu'en danois, « Ella » est tout simplement danska sans distinction de genre, alors que en France, elle devient française. Donc, c'est aussi une féminisation qui s'imprime dans son mental, dans des forums. Donc, et puis, il y a quelque chose de qui le dit, qui parle, qui décide de ce que vous êtes, le fait qu'on ne décide pas tout seul qu'on est. Et que on n'est jamais seul. Quand on entre dans une relation, on est autant défini par ce qu'on est et ce qu'on n'est pas.
Et ce qu'on nous dit qu'on est.
Et ce qu'on nous dit qu'on est. Et c'est très. Moi, j'ai donné des cours de linguistique et je me suis pas rendu compte tout de suite que c'est un acte de langage. Vous êtes française. Hein, y a quelqu'un qui dit ce que vous êtes, comme quand on dit la séance est ouverte. Hein,
une fois que c'est dit, c'est fait, quoi.
Ouais, ouais, c'est une parole qui fait acte. Et cette scène, je l'avais mis au milieu du roman à un moment parce que je trouvais que c'était un peu violente quand même de commencer comme ça. Et le mot naturalisation, j'avais beaucoup de mal aussi à le prendre dans ma bouche. Je me rappelle au début, quand je vivais en France, j'avais un copain anglais et un jour, je l'ai croisé au marché. Et il m'a dit avec un grand sourire, ça y est, je me suis fait naturaliser. Et moi, j'entendais castré sous ce naturaliser. Évidemment, c'était ridicule. C'était ridicule, mais ça dit bien une certaine violence symbolique qui est dans cet acte tout à fait banal aussi.
Parce que vous y voyez une façon de le couper, pour reprendre ce que vous y projetiez, de le couper de ses origines, de son précédent pays, de son identité première.
Oui, de séparer comme si c'est un choix qui s'impose au lieu de qu'on rajoute. On rajoute quelque chose qu'on devient peut-être pluriel. Ça pourrait s'envisager comme ça aussi, ouais.
On l'entend, dès le départ, il y a des questions de langue dans votre roman et dans la manière dont Ella est frappée par les mots, c'est-à-dire que les mots lui font des choses. Elle dit beaucoup qu'elle se cogne contre des mots, elle se cogne contre le mot danoise, elle se cogne contre le mot française, elle se cogne contre le mot femme. On va entendre la voix d'un traducteur, Georges Arthur Goldschmidt, parler justement de rapport physique aux différentes langues.
Quand j'étais petit, l'allemand était une langue de grands arbres et de nuages. Dans le regard, bien que j'habitasse une plaine près de Hambourg, la vue n'était pas très très grande, il y avait toujours des arrêts. Une vue verticale, il y avait beaucoup d'arbres, avec des ciels immenses, avec des nuages gigantesques. Alors que le français est une langue beaucoup plus, curieusement, d'espace plus grand, qui s'ouvre plus. La France est un pays où on circule très facilement, l'Allemagne pas du tout. Elle est pleine de montagnes partout, de petites collines qui ont empêché pendant des siècles la circulation. Et aujourd'hui, ma vision n'a pas fondamentalement changé. L'allemand a toujours des précisions extraordinaires de l'espace, il y a toujours des points. Et d'ailleurs, les trois points de l'espace sont très très marqués. Vous avez une espèce de comme un itinéraire. Alors qu'en français, on se fiche éperdument de l'itinéraire, on arrive. Le chemin n'est pas décrit. C'est très intéressant, comme si ça allait jusqu'aux racines de l'inconscient. De la manière dont le corps est déterminé à la fois par la langue et par sa relation à travers la langue avec l'espace qu'il occupe.
très précis, lui aussi, il en fait tout un sujet d'écriture, George Arthur Goldschmidt, le rapport physique à la langue, la spatialité qui est contenue dans la langue, les racines inconscientes de notre rapport au monde via la langue. Merete Østrup, c'est une archive de 2004 dans l'émission Tire ta langue, je crois, à l'époque, sur France Culture. Ouais, c'était Antoine Perrault. Qu'est-ce que traverse, justement, comme expérience vraiment langagière, votre narratrice Ella?
J'ai mis longtemps à me trouver à l'aise avec la phrase, dans la phrase en français, parce que c'est une phrase avec une certaine rigueur de syntaxe, une phrase très grammaticale aussi, où les marqueurs d'identité sont très soulignés, pas seulement dans les accords de genre ou les accords de nombre, mais aussi dans les formes verbales en fonction des pronoms, parce qu'en danois, il y a pas de, c'est le même forme verbale pour quel que soit le pronom. Et ça fait que ça fait par exemple que l'écart entre l'oral et l'écrit est plus grand en français qu'en danois, parce qu'on n'entend pas beaucoup de terminaisons dans l'oral en français, mais il faut les mettre dans l'écrit, alors que l'oral et l'oral des contes aussi. L'oral et l'écrit sont très proches
en
danois, et c'est une phrase plus souple aussi, où il n'y a pas bon, ça c'est pas quelque chose qui est intrinsèque à la langue, hein, mais en français, en tout cas moi, c'est quelque chose qui m'a impressionné aussi, autant que je pouvais pas m'identifier. Il y a le poids de l'idéal classique en France, hein, et la correction de la langue. Faut avoir un style soigné, éloquent.
Votre narratrice note par exemple le rôle des liaisons, et comment c'est un marqueur social de les faire ou de ne pas les faire, et de comment, quand on organise sa phrase d'une manière ou d'une autre, on peut révéler en quelques secondes ses origines sociales. Elle est très attentive à tout ça. En fait, ce qui est assez intéressant dans ce roman, Merete Østrup, c'est que la langue, c'est une aventure. C'est-à-dire que c'est vraiment une question d'émigration. L'idée de quitter son pays, en l'occurrence par choix. Donc il y a vraiment c'est une aventure géopolitique pour elle. Oui. Mais la vraie aventure, c'est l'aventure qu'elle fait dans une phrase. C'est l'aventure qu'elle ferait en effet à se dire. Mais c'est, est-ce que, par exemple, ce que je disais en introduction, est-ce que c'est le ou la cœur? C'est une vraie question pour elle.
Que...
Et ça la bouge. Ouais. Et ça la bouge vraiment. Ça bouge son rapport au monde.
Oui. C'est c'est une expérience intéressante, je trouve. Par exemple, elle a du mal avec de, je vous en prie, et des formes de politesse comme ça aussi. Elle a cette idée là de tenue correcte, exigée. Et là, il y a quelque chose aussi qui intervient, je pense, dans mon origine danoise, quand on parle trop bien, c'est un peu louche. Bon, je pense que c'est peut-être comme ça pour certains Français aussi, mais...
Ça veut dire quoi, c'est un peu louche?
Un beau parleur, c'est quelqu'un qui cache quelque chose, qui manipule, qui... c'est pas vrai, hein, ça manque un peu de... Comment dire
De sincérité.
Oui, de sincérité. Quand on est sincère, on bafouille des fois, on est maladroit aussi des fois. Et voilà.
En même temps, votre roman réfléchit aussi à tous les masques que nous portons et à toute la liberté qu'il y a à porter des masques ou à les défaire ou à les faire tomber. Oui. Cette femme est là, on ne la rencontre pas dans n'importe quel moment. C'est-à-dire que on a entendu cette date de 1999 où elle est naturalisée française, où on dit vous êtes française. Mais nous, son présent, là où on la rencontre, c'est un moment de crise. Elle va rencontrer un médecin, puis une psy. Il y a quelque chose qui a trop bougé en elle. Elle veut recommencer. Elle veut faire tomber les masques. Elle dit elle ne veut plus jouer le jeu.
Quel
moment.
Je pense que Ella, c'est bon. J'ai dit tout à l'heure, c'était pas tout à fait comme moi. Je pense que c'est quelqu'un de beaucoup plus transparent qui s'est beaucoup plié aussi aux attentes. Et au début, elle a vraiment voulu s'intégrer très vite. Elle aime son nouveau pays. Elle a envie de s'assimiler. Et quand on s'assimile, on perd un peu son histoire, hein, on perd un peu, il y a quelque chose qui sort, qui disparaît. Et la crise qu'elle traverse, ou la dépression qu'elle traverse, qui est aussi liée à un surmenage au travail, c'est qu'elle se rend compte qu'il y a des limites à l'intégration, je pense.
Oui, elle se cogne et elle est comme renvoyée à ce mot-là. Est-ce que je suis danoise? Est-ce que je suis française? Et il y a quelque chose qui est un peu... qui l'emprisonne.
Oui. Après, il y a aussi... l'expérience d'avoir plusieurs jeux. Tout émigré, c'est qu'il a deux jeux au moins.
Et au moins,
oui. Oui, elle voit qu'elle en a d'autres avec son... Comme elle a grandi avec le dialecte aussi. Donc, il y avait déjà la langue qui posait problème quand elle était enfant, parce que quand elle commençait à aller à l'école, il fallait parler le danois standard. Donc, il y a... Je pense qu'il y a l'expérience de la langue, mais pour moi, le français, c'est aussi très corporel. Hein, en fait, moi, j'aime beaucoup la musique de la langue française, et j'aurais pas écrit en français s'il y avait pas cette affinité, même si c'est pas toujours confortable. Mais j'aime bien cette étrangeté qu'il y a dans un mot français que je maîtrise peut-être pas comme quelqu'un d'autochtone, mais qui me parle.
Mais ça fait aussi le sel de l'expérience de votre narratrice qui passe son temps à interroger la langue. C'est-à-dire que, on va dire, quand on est né dans une langue et qu'on la parle a priori sans la questionner, votre narratrice, au contraire, comme elle est étrangère à cette langue-là, elle passe son temps à se demander c'est quoi ces bouts de mots, c'est quoi ces bouts de langue, comment elle les agence. Et donc, elle est tout le temps en train de pouvoir réinventer, pouvoir le questionner. Mmh. Un instant, arrêtons-nous sur le titre de votre roman, Hôte. Mmh. Il y a ce double sens qui est accueillir et être accueilli. Et en vous écoutant, Merete Steerstrup, on entend bien aussi qu'il s'agit d'accueillir en soi toute forme d'altérité. Mmh. Et pas. Bien sûr, elle est danoise, bien sûr, elle questionne son genre, mais. Mmh. C'est un peu aussi l'inquiétante étrangeté. Il y a aussi toute la forme d'histoire.
Ah, voilà. Oui. C'est un mot très riche, hôte, hein, parce que c'est un mot qui longtemps est resté mystérieux pour moi, jusqu'à ce que j'ai compris que bien souvent la relation entre les choses est plus importante que les choses en elles-mêmes. Et que hôte, c'est justement un mot qui indique
une relation.
Ce qui est réversible dans une relation réciproque, le fait qu'on ne peut pas être défini sans l'autre. Et ce qui m'intéresse, et puis il y a l'hostilité, l'hospitalité. Je trouve que ça dit beaucoup d'une relation aussi qui est réversible et qu'on a à l'intérieur de soi par rapport aux langues et différentes identités. Ce qui m'intéresse dans ce roman, c'est l'immigration comme relation, et justement pas seulement comme une relation sociale, mais aussi comme une relation existentielle, comme vous dites, entre le familier et l'étranger.
Y compris à l'intérieur de soi.
Oui, l'inquiétante étrangeté de Freud. Hein, c'est un peu ça aussi, qu'on est aussi, on n'est pas seulement l'étranger de quelqu'un d'autre, on est aussi l'étranger de soi-même. Oui.
Souvent, on est d'abord l'étranger de soi-même, d'ailleurs.
Oui.
Dans cette histoire, il y a beaucoup de questions de lieux, de maisons et d'arbres. Votre narratrice s'empare des arbres et de leurs formes, notamment pour parler de l'amour, pour parler de la rencontre amoureuse, pour parler de la relation aussi sociale. On va écouter la voix du romancier américain Richard Powers. Il avait écrit « L'arbre monde », publié en français en 2018, et il parle de son rapport aux arbres.
Le comportement des arbres est riche, complexe et similaire à notre propre comportement. La nouvelle sylviculture, la révolution dans notre compréhension de ce qui se passe dans les forêts au cours des 20 ou 30 dernières années, nous a ouvert les yeux sur la complexité, non seulement du comportement des arbres individuels, mais aussi de la façon dont les arbres forment des communautés. Ils sont liés dans des réseaux de coopération très étroits. Ils ont de la mémoire. Ils domestiquent les insectes. Ils se maintiennent en vie grâce au partage des ressources. C'est absolument remarquable, et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y ait encore beaucoup d'autres découvertes à faire sur le comportement complexe des arbres. Et ces découvertes nous force à réaliser que peut-être des choses que nous pensions être le propre exclusif des êtres humains ou de créatures comme les êtres humains sont en fait beaucoup plus largement partagées à travers le royaume du vivant.
Mmh.
Je ne sais pas trop quand j'ai commencé à me raconter des histoires sur les pins. « Mon Satori des pins », dis-je à Guillaume. Raconter, c'est un grand mot. Satori, également. Au début, c'était des ébauches de pensées, des rudiments se mouvant mollement, la sensation du schweben, un état d'apesanteur. Ou bien c'était comme des apparitions, l'impression, fût-ce seulement une seconde, que les arbres me regardaient et non l'inverse. C'était comme une éclipse du présent, un bref retour d'enfance, une plongée dans cet âge où il n'y a pas de frontière nette entre soi-même et les choses. Un caillou lancé dans la mare, plouf, et on suit le mouvement du regard, et c'est en quelque sorte soi-même qui tombe et se transforme en cercle se répandant autour du même plouf. Je ne saurais dire exactement quand s'est produit ce moment. Est-ce à l'instant même où j'ai mis les pieds dans le bois de pin ? Le matin d'hiver où j'ai entendu le vent s'engouffrer entre les pins, les faisant chantonner ? Le soir du 15 août où j'ai sifflé une bouteille de rouge ? Le jour de novembre où j'ai nettoyé les gouttières ? Ou cette nuit où mes parents sont venus inspecter la pinède ? À présent, ça vient tout seul si je reste sur le banc à écouter le vent dans les arbres. Le soir, c'est plus fort. C'est un moment de dépossession et de possession. Le vent, c'est aussi une musique. Un bruissement des aiguilles, un balancement des cônes. Une musique sans partition, sans mémoire. C'est la nuit qui tombe doucement dans l'arbre, puis l'emporte. C'est une musique qui hésite à finir. Le vent tournoie entre les pins, fouillant le vide, tout en allant vers un endroit où il peut enfin cesser d'être le vent. Mais si le vent se tait, les arbres ne parlent plus.
Un extrait de votre livre « Haute » Merete Stierstrup, juste après la voix de Richard Powers qui parle de son propre rapport aux arbres et du début de notre connaissance en fait de la vie des arbres. Le paragraphe que vient de lire Mathilde Wagman finalement se conclut sur l'idée de la possibilité de faire parler les arbres. C'est aussi à cela que peut jouer et le roman et la narratrice Ella. Qu'est-ce qu'ils vous permettent de dire, ces arbres-là, ou qu'est-ce qu'ils lui permettent à elle de dire ou de penser ?
Comme je l'ai dit, j'ai commencé ce roman-là il y a très longtemps en faisant parler des arbres à la place d'Ella. Mais c'était un peu pour esquiver la question, parce que je m'en trouvais pas dans une littérature d'émigration. Mais les arbres peuvent faire beaucoup de choses pour quelqu'un qui a grandi à la campagne, je crois. Les arbres font le lien aussi entre les deux pays. C'est un peu comme des passeurs ou des objets transitionnels, parce que les arbres, c'est pareil d'un pays à l'autre. C'est idiot de le dire, mais les arbres se ressemblent beaucoup plus que les maisons ou les êtres. Et je crois que c'est ça qui est arrivé quand j'ai aménagé dans cette maison-là, qu'il y a quelque chose qui est revenu que je voulais pas voir, je voulais pas savoir. Pendant longtemps, je voyais ma vie un peu comme sous le signe du voyage, que le chemin de la vie...
Qu'est-ce qu'elle voulait pas savoir, vous, la narratrice, c'est-à-dire quoi, le retour du passé d'une certaine manière?
Oui, c'est aussi que je m'intéressais pas du tout à la littérature d'immigration, je le lisais pas, je me voyais pas comme une immigrée, et en même temps, c'était quelque chose qui était quand même là, hein, quelque part.
Parce que les arbres, ça lui permet à Ella aussi d'éprouver de la nostalgie, éventuellement de...
C'est surtout que ce sont des pins noirs d'Autriche, c'est-à-dire des étrangers. Hein, c'est un petit peu ça qui fait le lien, qui permet le jeu. Hein, c'est un jeu aussi qu'elle fait avec ces arbres, là. C'est difficile de dire, je pense, mais je crois que là, et sans me rendre compte, j'ai hérité aussi d'une tradition nordique où la nature a une place beaucoup plus importante, pas seulement dans la vie, mais aussi dans la littérature. Et
éventuellement avec un aspect un peu féerique.
Féerique, ouais. et conte, évidemment aussi. Et le fait que je crois qu'on a... On n'a pas peur des anthropomorphismes non plus, comme on a un peu aujourd'hui, hein, c'est pas politiquement correct de humaniser les arbres. Et on peut toujours le faire dans la littérature nordique, et parce que ça va de pair avec une poésie du paysage, ou ça va de pair avec des descriptions d'ordre scientifique, comme par exemple chez Richard Powell. Donc il y a une pluralité d'accès et à la nature que j'avais envie de trouver aussi dans le roman, et qui, j'espère que c'est venu à un moment, mais c'était pas du tout là au début.
Dans le roman,
de dire par exemple que je sais bien, les arbres me parlent, mais je sais bien qu'ils ne parlent pas. Concomitance.
C'est un joli mot.
Oui.
C'est un très joli mot. Oui. Dans ce livre-là, il s'agit par exemple, il y a un bois qui environne, qui jouxte les maisons. Il s'agit de le sauver, de savoir ce qu'il adviendra de ce bois-là. Oui. On peut y voir la puissance métaphorique, quoi. Mmh. Qu'est-ce qu'il s'agirait pour elle de sauver pour Ella qui s'engage là-dedans, pour que ces arbres-là ne soient pas coupés. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle intimement?
Oui, ça veut garder. Les arbres fonctionnent un peu comme des hôtes aussi, c'est-à-dire qu'il y a une maison. Le livre aussi, c'est un peu une maison. C'est un endroit qui retient quelque chose. Les arbres, c'est bien aussi parce que ça, c'est là avant nous. Après, c'est quelque chose qui
c'est un invariant, c'est stable.
C'est quelque chose de stable et immobile dans une vie justement qui bouge peut-être trop.
On va lire un dernier passage de votre livre, Merete Stierstrup. Justement, vous parlez d'une vie qui bouge. Il y a une réflexion importante sur les lieux qui nous habitent ou que nous habitons. On écoute un extrait de votre texte.
C'est étrange comment les lieux s'inscrivent en nous de manière à transcender le temps. Ils sont des attaches dont nous ne serons jamais définitivement coupés. Tout comme l'enfance ne nous quitte jamais. J'ai lu chez Saint-Exupéry qu'on est de son enfance comme on est d'un pays. Ou bien c'est comme les anneaux d'un arbre qui révèlent l'existence de différents niveaux d'une vie présents en même temps. Le bois de pin, c'est la seconde fois. Il n'y aurait pas eu de seconde fois sans la première. C'est la seconde fois qu'il m'arrive de vivre cet état d'apesanteur, ce moment de porosité qui fait trembler les limites entre les arbres et l'œil qui regarde, ce regard qui ne m'appartient pas autant que je veux bien le croire. La première fois, j'ai ressenti beaucoup de choses que je ne savais pas nommer alors. J'aime mieux la répétition, la reprise, ces revoirs qui ne sont pas exactement des retrouvailles. La seconde fois, on voit mieux les détails. On sait qu'on peut en partie choisir ce dont on hérite. Je ne refais pas mon enfance ni mon pays, je les revois autrement. Cela fait longtemps que j'ai mis les tontons au placard. À les revoir à présent, rendus à leur dimension humaine, j'en ris presque. Si j'ai été assez folle pour partir ailleurs, j'ai toutefois échappé à une autre folie, celle de m'enfermer dans l'histoire de mes ancêtres et de réduire ma mémoire au récit familial. Il faut partir pour avoir une histoire à soi.
Un extrait de votre livre Haute, Merete Stierstrup, qu'on peut quand même entendre assez, on va dire, informé ou travaillé par la psychanalyse. C'est-à-dire, il y a l'idée de la répétition jusqu'à un moment donné où il y a dans cette répétition non plus une pulsion mortifère, mais une émancipation. Cette femme décide de bouger quelque chose, de bouger quelque chose par rapport à la répétition du même. On a assez peu parlé de la grande histoire, mais elle intervient aussi dans le roman. Peut-être ce serait une autre façon de parler de sa trajectoire.
La grande histoire.
Le fait qu'elle rappelle l'histoire de la guerre du XXe siècle. Et elle décide de n'être pas que cela.
Oui. Qu'est-ce que je vais dire à ça ?
Beaucoup de choses, beaucoup trop de choses dans cette question.
Oui, il y a beaucoup de choses.
Choisissez, piochez dans ma question, ce que vous voulez.
Donc il y a la grande histoire, et le début de votre question
c'est... Le début c'était qu'en entendant Mathilde lire, j'entendais quand même beaucoup quelque chose de, vous disiez tout à l'heure, l'inquiétante étrangeté de Freud, mais j'entendais l'idée de sortir de la répétition, on va dire.
Oui. Sortir de la
Je vous facilite pas l'affaire. J'ai hésité à la poser, si vous voulez tout savoir.
Oui, je vois pas bien le rapport avec l'Europe là et le chapitre.
Pas parler d'Europe alors, pardon.
sur l'histoire de la guerre là.
Dans le paragraphe, on va dire qu'elle décide de s'émanciper, de l'histoire de ses ancêtres et de ne pas répéter, pas faire que répéter.
Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça ? Je suis un peu.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Que c'est quand même une des trajectoires de votre personnage ?
Oui. Elle devient. Je crois que ce que je pense aussi là qui se présente là, c'est que par exemple le chapitre là sur l'Europe aussi, c'est la question qui se pose, c'est aussi qu'on n'est pas seulement ce qu'on vit, ce qui est important, c'est aussi ce qu'on vous raconte et ce qu'on lit, c'est aussi important que ce qu'on vit. C'était dans cet esprit-là que j'avais mis aussi le... Peut-être moins psychanalytique que ça, même si j'aime bien l'inquiétante étrangeté, j'aime bien jouer avec ça, mais il y avait plutôt l'idée là de rajouter des couches. J'aime bien rajouter cette idée de rajouter des couches. Il y a des scènes. C'est pas un roman très chronologique en fait. C'est un roman qui est composé de scènes et je le vois un petit peu comme les anneaux d'un arbre aussi. Je vois plutôt comme ça que ce que vous dites là de changer de vie. Mais bon, c'est votre lecture.
Exactement, voilà. Oui, ça ne concerne que moi. Oui. C'est moi qui me suis empêtrée.
J'aime bien cette idée là qu'on rajoute, hein, moi je suis quelqu'un qui pense beaucoup en phrases, beaucoup plus qu'en histoire, et j'aime bien des phrases comme par exemple vous êtes française où on a plusieurs couches, hein, où ça où on a l'impression qu'il y a plusieurs temps qui affluent et que c'est composé de plusieurs temps. Ça, j'aime bien. Voilà.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
À cette heure-ci, le jeudi, on prend des nouvelles du livre grâce à la rédaction internationale de Radio France. Aujourd'hui, on se rend vite au Royaume-Uni avec vous, Emmeline Vigne. Bonjour Emmeline. Bonjour Emmeline.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Chez vous, depuis quelques mois, le secteur de l'édition s'inquiète.
Bonjour Marie.
Oui, je vous entends. Ah, on a un petit délai, ça va être pénible. Allô, allô. Ça y est ? Est-ce qu'on est à peu près sur le même créneau ?
Allô, oui.
Non. Alors, chez vous, depuis quelques mois, le secteur de l'édition s'inquiète des évolutions de l'intelligence artificielle. Il faut dire que le gouvernement britannique envisage de se montrer très 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 généreux vis-à-vis des entreprises de la tech.
En effet, le gouvernement britannique veut attirer les investissements liés à l'intelligence artificielle, devenir un hub, un centre technologique. L'une de ces pistes, autoriser les entreprises de la tech à utiliser des œuvres britanniques, littéraires, musicales, visuelles, pour entraîner leur modèle d'intelligence artificielle générative sans avoir à payer de droits d'auteur. En clair, donner le travail des artistes britanniques pour que des machines puissent s'en inspirer dans le but de créer de nouvelles œuvres.
Et donc ça fait peur aux éditeurs britanniques.
Absolument. Le principal syndicat du secteur, la Publisher Association, parle d'un braquage aux droits d'auteur et a recueilli le soutien de ses homologues au Canada, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et même le soutien du syndicat national français de l'édition. Le président de la Publisher Association, Dan Conway, a participé à la consultation menée en début d'année par le gouvernement. Et donc le syndicat a fait le test en donnant à un modèle d'IA des extraits de Harry Potter, l'un des plus grands succès littéraires britanniques. Eh bien, quand on lui demande de générer un texte dans le style de Harry Potter, le modèle, par la suite, recrache mot pour mot les extraits, un copier-coller en bonne et due forme sans valeur ajoutée. Le risque, c'est donc celui d'un plagiat pur et simple, sans reconnaissance pour les auteurs ou autrices d'origine, qui perdraient tout contrôle sur leur travail et l'utilisation qui en est faite, voire qui ne seraient même pas informés que leurs écrits ont servi à « nourrir » entre guillemets des modèles d'IA générative. Et puis, il y a l'argument économique et moral, évidemment, difficile d'accepter de donner gratuitement son travail.
Est-ce que ça veut dire que le secteur s'oppose complètement à l'utilisation de l'IA ?
Ah non, pas du tout. Au contraire, l'IA est perçue comme une opportunité historique pour les entreprises du secteur, qui d'ailleurs y recourent déjà, hein, en particulier pour le marketing et comme outil de productivité. Mais qui dit opportunité historique dit responsabilité historique. Les éditeurs réclament au gouvernement un cadre légal solide et surtout éthique pour protéger l'écosystème de l'édition qui pèse quand même 13 milliards d'euros annuels ici et près de 100 000 emplois. Et puis enfin, la Publishers Association a bien conscience de l'ironie de la situation. Si l'on ne fournit pas de matériel de qualité au modèle d'IA, ils ne pourront jamais produire de contenu de qualité. Alors on pourrait penser que c'est dans l'intérêt de l'édition, mais le secteur a bien conscience des dangers de l'IA en matière de désinformation par exemple, et ils estiment qu'il en va de leur responsabilité de participer au développement de la technologie, à condition, vous l'avez compris, d'être rémunérés justement.
Et que dit le gouvernement ?
Eh bien, son argument principal, c'est qu'il entend proposer une clause de non-participation. Les auteurs qui ne souhaitent pas que leur œuvre soit utilisée pourront faire la demande pour exempter leurs travaux. Pas suffisant et trop fastidieux pour la Publishers Association. Puis pour l'instant, l'exécutif assure que le projet n'en est qu'à une phase de consultation, même s'il n'a pas fait preuve d'une grande écoute vis-à-vis des entreprises de la créativité, les éditeurs donc, mais aussi les musiciens, les comédiens ou les compositeurs.
Un très grand merci Emeline Vigne. On peut vous réécouter Lecture sans frontières sur franceculture.fr. À cette heure-ci, dans le Book Club Meretas Tierstrup, on joue à un jeu. L'idée, c'est de trouver de la musique dans les textes. On a trouvé de la musique dans votre roman. Haute, c'est donc avec un extrait de votre roman qu'on se quitte. Quelqu'un a mis de la musique et ouvert les portes pour qu'elle coule jusqu'au dehors. Mach schön, mach Platz. Sois beau, ouvre la place. Ou encore, ce n'est pas ça, va chercher plus loin. C'est une musique entraînante, celle du Contact Off de Pina Bausch. On l'entend venir de la maison, c'est un tango. Einmal ist keinmal, une fois ne compte pas. En dansant, on s'allège, on fait place à autre chose, des mots écrits avec le corps. Einmal ist keinmal, ce sont aussi des paroles qui reviennent. Sans doute avais-tu désiré plusieurs vies, au moins deux. Tu n'aurais jamais pu tenir avec une seule vie. Pour vivre plusieurs vies, il faut savoir oublier. L'oubli, ça s'apprend. Tu as fait le voyage pour que ça recommence. Tu aimes les débuts. Et pour commencer, il faut avoir fini. Il faut savoir rythmer sa vie. Sinon, on perd la musique.
Einmal, ach was, einmal ist einmal, flüstert rings um dich her, nimm's doch nicht so schwer. Einmal, ach was, einmal ist einmal, denk nicht nach, wenn du küsst, was dann morgen ist. Ein jeder Geigenstrich beim Tango oder Blues ruft dir verlockend zu, was zögerst du, so tust.
Merci beaucoup, Meretas Tierstrup, d'avoir été avec nous pour parler de votre roman Haute, paru dans la collection La Brume, aux éditions du Rouergue. Aujourd'hui, on était en grande compagnie parce qu'on a accueilli des élèves de la classe 4e classe média du collège Vaucouleurs à Mantes-la-Ville. C'est à elles, il n'y avait que des filles, que je confie le générique de fin.
Au son aujourd'hui, Ruben Carmazin.
À la réalisation, Vivien Demeyer.
Vous pouvez réécouter le Book Club via l'application Radio France.
Et nous, on est Angéline,
Andrea,
Morgane. Et on était au studio aujourd'hui.
Bah ouais.
Bon après-midi sur France Culture.